D'abord, merci de l'invitation. Et quand on vient à Lille, on pense au centre d'éthique médicale de la Cato, qui est bien présenté, avec lequel nous travaillons en réseau. On a monté un réseau européen avec ce centre, où on travaille notamment la question des vulnérabilités. Et pour nous, c'était une grande chance, cette mutualisation d'expertise, avec des gens qui sont peut-être plus rigoureux que nous en matière d'éthique, mais on est beaucoup plus terrain. Juste en présentation, donc merci d'être là. J'avais mal lu, excusez-moi, votre document au tout départ. D'ailleurs, j'avais cru que vous vouliez qu'on parle d'espace éthique. Je pensais que mon intervention était autour de qu'est-ce que c'est un espace éthique et comment se posent aujourd'hui les questions d'éthique. Ce qui n'est pas le cas, puisque vous voulez que je parle spécifiquement des proches. Et puis j'ai compris quand même qu'il y aurait un échange, puisqu'on a affaire à des professionnels qui sont plus compétents que moi par rapport à cette expérience, et qu'en plus, il y a une dimension spécifique. Qu'est-ce que être proche d'une personne qui est affectée par une maladie qui touche l'autonomie, les côtés psychiatriques sont assez spécifiques. Je dirais donc, et vous n'en voudrez pas, hein, j'ai pas fait de diaporama, mais ça m'arrive aussi d'en faire. Et donc j'ai quelques petites notes qui répondaient aux trois questions que vous m'aviez posées dans cette espèce de petite saisine. Donc vous posez la question d'intervention qui serait autour de la place accordée aux proches dans l'offre de soins aux malades. Pourquoi la question de l'entourage est une question éthique? Qui sont les proches souvent en souffrance? Quelle est leur place quand ils sont présents et quelle solution quand il n'y a pas de proches? Et puis le troisième item de vos questionnements, c'était secret médical, qu'est-ce qui est vraiment confidentiel? Alors j'ai mes petites notes et je vais lire, mais ce sera assez bref, et commenter. D'abord, pour vous dire que ça fait à peu près 12 ans qu'on est engagé dans la démarche qu'on appelle la démarche de la proximologie. C'est un laboratoire, Novartis, qui a lancé cette idée, et elle aboutit pour ce qui nous concerne à un doctorat, puisque Hugues Joublin, qui dirigeait la communication institutionnelle de ce laboratoire et qui était à l'origine de la proximologie. Hugues Joublin a passé un doctorat chez nous, et un doctorat brillant, qui a été reconnu comme une avancée importante. Il y a 12-15 ans, on parlait moins du proche qu'on en parle aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est peut-être paradoxal de beaucoup parler du proche, notamment avec la loi HPST, de la démédicalisation, de la désinstitutionnalisation de la personne, avec les questions éthiques que ça peut poser. Est-ce que la personne a un proche ou pas? Qu'est-ce que c'est être proche d'une personne malade? On sait quelle est l'expérience pour l'environnement familial d'une maladie qui est souvent très envahissante et qui permet difficilement de maintenir les relations qu'on pourrait souhaiter, les relations d'affection avec une personne malade, surtout dans la maladie au long cours. Donc ça fait des années qu'on s'est investi dans ce domaine. Et je me rappelle qu'il y a 10-12 ans, quand on a commencé à se lancer dans la réflexion avec les gens de la proximologie, on disait que ce n'était pas une vraie question, et encore moins une question éthique. Voilà. C'est-à-dire que la question du proche était moins intéressante que la question de la personne malade, en tant que telle. Et aujourd'hui, il y a une espèce de balancier. On serait tenté de davantage parler de l'intérêt des droits de la personne proche que de la personne malade elle-même. On en reparlera tout à l'heure, peut-être dans notre échange. Pour dire qu'il faut être attentif à un discours qui évolue, à des modes, puis s'interroger qui est proche. Parce que j'ai noté que vous avez parlé des proches. Souvent, c'est le proche. Le proche de la personne malade est quelquefois la personne la plus vulnérable dans la famille. Donc, que peut faire un proche s'il est solitaire comme le malade dans la maladie, surtout au long cours? Et qu'en est-il de la fonction du proche dans une société qui est assez différente finalement de la maladie d'une certaine façon? Même si on finance avec beaucoup de moyens les traitements, on sait que la dimension sociale de la maladie est tout à fait absente des préoccupations, on le voit à travers les grands plans qui ont été lancés. Ben ça, c'est des points un petit peu généraux qu'on pourra évoquer. En tous les cas, nous, on est engagés dans la proximologie. C'est une question éthique, la relation à l'autre. C'est une question éthique. Quel est l'autre? Quel est cet autre malade qui, quelquefois, est étranger à ce qu'il a été, puis étranger au milieu dans lequel il évolue? Nous, on est devenu l'espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que c'est, par exemple, accompagner, être le proche d'une personne atteinte d'une maladie d'Alzheimer qui ne vous reconnaît plus comme un proche, avec lequel il n'y a plus objectivement, en tous les cas, même si d'autres types de relations peuvent apparaître, un sentiment de réciprocité, d'échange, de construction commune? Ben, c'est des questions, en tous les cas, qu'on se pose d'une manière tout à fait concrète. Qu'est-ce que c'est aussi être le proche solitaire? Quand quelquefois, et je vous incite à lire le livre d'Arthur Schnitzer, qui se nomme Mourir, quand quelquefois la personne malade, alors je ne suis pas psychiatre ou psychanalyste, a envie d'entraîner la personne aussi dans sa chute d'une certaine façon. Donc il y a des relations extrêmement ambivalentes, et de la même manière qu'on ne parle pas d'une manière un peu idéalisée du bon malade qui serait une personne parfaite, on ne peut pas parler non plus du bon proche, il y a beaucoup d'ambivalence. Et vous avez noté d'ailleurs que le législateur, dans la loi du 4 mars 2002, le droit des malades et qualité du système de santé, par la suite,
dites, la loi du 22 avril 2005, droit des malades et fin de vie, ne parle pas du proche, il parle de la personne de confiance. Donc encore une autre catégorie. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qu'il faudrait du temps pour les interroger, les décliner. Nous, on a vu apparaître, en tous les cas, objectivement, la notion de proche dans l'aventure des années SIDA. C'est-à-dire le proche, ça pouvait être l'ami, ça pouvait être l'amant, ça pouvait être un membre de l'association qui n'était pas naturellement la personne la plus proche, qui pouvait être la famille qui quelquefois avait abandonné, relégué la personne du fait de sa maladie. Et on voit au niveau de la sémantique le mot proche apparaître, en tous les cas dans notre culture française, hein, je ne parle pas de la culture anglo-saxonne, on la voit apparaître dans le contexte de la maladie dans les années SIDA. Donc c'est un point important. Et la vraie question philosophique, c'est qu'est-ce que c'est être proche d'une personne malade? Comment lui témoigner une sollicitude alors que par nature, la maladie est distante, la personne, et nous écarte plutôt d'elle que nous la rend proche. Même si on a toutes sortes de sentiments à solliciter pour maintenir une relation, j'allais dire, qui domine les tentations finalement de rejet, de recul et quelquefois de protection de soi-même par rapport à la maladie. Donc les choses ne sont pas évidentes. Voilà ce que j'aurais dit d'une manière théorique. Alors c'est pour ça donc, que depuis 10-12 ans, peut-être un peu plus, on travaille avec la proximologie. Et ce qui nous avait beaucoup frappé, puis j'en viendrai à mes petits papiers découpés. D'ailleurs, ne faites pas non plus d'interprétation des papiers découpés, mais j'ai eu une ambition quand je les ai retrouvés. Quand je faisais des entretiens avec Emmanuel Lévinas, il me rendait l'entretien, donc je décryptais l'entretien, je le mettais sur un papier, il me rendait avec des petits papiers, vous savez, comme on regarde les manuscrits de Flaubert à la Bibliothèque Nationale, il y avait des papiers dans tous les sens qui étaient collés. Alors j'ai pas l'ambition de faire tel quel, d'ailleurs ils sont pas collés, mais j'ai eu ce sentiment, cette réminiscence quand j'ai fait mon petit découpage tout à l'heure à l'hôtel. Un point qui est tout à fait intéressant dans la démarche de la proximologie, telle qu'elle a été menée par Novartis, hein. Je ne suis pas payé par Novartis, vous savez, on doit dire, de conflit d'intérêts, généralement quand on fait une intervention, il ne nous finance pas particulièrement à l'espace éthique, mais néanmoins on a beaucoup de considérations pour ce laboratoire et d'autres qui sont intervenus dans des domaines de cette nature. Et la première étude qu'ils avaient faite, et c'est ce qui est intéressant, c'est des études scientifiques, c'était sur la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et donc c'était l'impact de la maladie sur le quotidien du proche. Un quotidien qui se trouvait être le quotidien de l'enfermement, de la solitude. Et dans leurs premières études, ils faisaient apparaître que, économiquement, le proche se trouvait très vulnérabilisé par la maladie, je ne parle pas déjà moralement, et souvent le proche pouvait mourir avant son malade lui-même. Et présenter tout un ensemble de signes cliniques, qui étaient des signes cliniques tout à fait péjoratifs, et pour lesquels finalement il ne considérait pas qu'il avait à être préoccupé puisqu'il avait comme priorité de s'occuper de son malade. C'est des éléments à prendre en considération. Et toute la création, en fin de compte, de la proximologie a été articulée, justifiée et légitimée par des études extrêmement systématiques. Il y a eu le proche, par exemple, de la personne atteinte de cancer du sein. Ça a été mon expérience, ma femme est dans la salle, donc on a une expérience réciproque de la proximité. Et on a compris qu'il fallait être à la fois proche de la personne dans sa maladie et que la personne proche dans la maladie doit être proche de son proche pour qu'il puisse se maintenir dans une relation de proximité. C'est tous ces éléments qui sont intéressants. Donc il y a eu dans l'histoire de la proximologie des grands moments d'études, et c'est pour ça qu'on considère, grosso modo, et pourra toujours en discuter, que c'est devenu quasiment une science, la proximologie. Il y a des études, et rien n'indique que demain, il n'y aura pas une chaire de proximologie quelque part qui justifiera, à mon avis, bien des études, puisque quand vous avez abordé le dernier item, hein, peut-être que finalement dans mon introduction j'aurais abordé tous les items sans véritablement les aborder et qu'on pourrait ouvrir le débat, mais l'histoire du secret médical a été pour nous la première porte d'entrée. Et le secret médical proche, c'était dans le cadre de la consultation d'annonce. On s'est posé, on a été contacté par différentes équipes, la question: est-ce qu'un proche, parce qu'il est proche, doit participer, doit même être assigné à participer à la consultation d'annonce d'un résultat, ou est-ce que l'annonce du résultat doit se faire en tête-à-tête dans un premier temps avec la personne elle-même, notamment parce que la personne veut quelquefois sauvegarder une certaine relation avec son proche, ne pas avoir à tout dire, ne pas être à nu dans une situation qui est extrêmement accablante, mutilante et de haute vulnérabilité. Donc il y a quelquefois aussi la stratégie de protéger les proches d'une maladie qui est envahissante et qui va perturber finalement des relations qu'on veut préserver. Donc c'était notre point de départ, nous, au niveau de la réflexion éthique, c'était la question de la confidentialité du secret. Et on a vu qu'il y a plusieurs écoles, et une école que tu connais bien, c'est l'école Ménager, pour Vincent Ménager à la Pitié-Salpêtrière, qui annonce par exemple la SLA, donc avec un pronostic même assez péjoratif, qui considère qu'il doit l'annoncer à la personne elle-même, et pas à la personne et aux proches. Et d'autre part, un certain nombre de professionnels disent, s'il y a des proches, il faut avoir deux stratégies, la stratégie vis-à-vis de la personne malade et la stratégie vis-à-vis du proche, et quelquefois il faut plus consoler le proche que la personne malade, alors qu'on sait que la personne malade aura probablement comme plus haute responsabilité d'annoncer à son proche la maladie, ce qui sera encore quelque chose de plus difficile. Bref, ces questions ont été pour nous la porte d'entrée concrète. Vous parliez d'éthique, vous avez mis le terme secret médical comme un élément constitutif. C'était la confidentialité, avec des questions extrêmement importantes, puisque finalement certaines personnes veulent épargner, c'est le mot qu'ils emploient, leur famille, de cette présence, de cette obsession, de cette menace de la maladie. Et souvent les professionnels se trouvent dans des situations de dilemme en disant, mais s'ils ne savent pas, est-ce que d'une certaine manière on ne reprochera pas, c'est le devoir d'informer, jusqu'où le devoir d'informer aujourd'hui doit, on le voit dans la loi du 4 mars 2002, vous rappelez dans la loi du 4 mars 2002, on a un droit à l'information, un devoir de l'information, on a aussi un droit de respecter la personne qui ne veut pas être informée. C'est tout un ensemble d'ambiguïtés. Donc voilà, nous, la porte d'entrée qu'on a eue par rapport aux proches, c'était la question du secret. La question de l'intime aussi, c'est-à-dire comment une relation spécifique peut se déployer à travers des mois entre un professionnel de santé, une équipe et une personne sans avoir à tout moment à intégrer dans une relation spécifique, surtout dans les moments les plus compliqués, les plus délicats, la famille. Avec des pics qu'on a réfléchis d'une manière un peu analysée en profondeur, c'est les prises de décision. C'est que l'esprit de la loi du 4 mars 2002, c'est informer, non pas pour informer, mais pour que la personne soit partenaire dans la prise de décision. Donc la question se posait, est-ce que le proche, et quel proche, doit être partenaire? Et qu'est-ce que c'est être partenaire dans une prise de décision quand ce n'est pas votre propre décision? C'est la même question qui se pose aujourd'hui pour la personne de confiance, qui n'a pas à prendre la décision, mais qui est consultée, par exemple en réanimation, pour savoir quelle était l'opinion, le sentiment de la personne au moment où elle pouvait avoir un libre arbitre et s'exprimer. Et on voit toutes les difficultés que la judiciarisation des pratiques ont généré. Et la question du proche, je ne donne que cet exemple qu'on avait trouvé extrêmement important. Il y a des proches qui se trouvent extrêmement déstabilisés, voire humiliés, voire très perturbés, profondément perturbés, lorsqu'ils apprennent qu'ils n'ont pas été désignés personnes de confiance. Ouais, quand vous êtes le proche. Une personne qui a besoin de son proche, est-ce qu'elle pourra s'abstraire de la désigner personne de confiance? Je vous donne ces éléments comme ça pour vous dire que la question du proche, on peut l'avoir d'une manière théorique, mais en application pratique, il y a beaucoup de questions éthiques. On est rentré par la question du secret, mais on est rentré également par l'assignation du proche, par exemple, à avoir une fonction médicale dans la relation. C'est de plus en plus, et la loi HPST va accentuer ce mouvement. On parle de démédicaliser, de déshospitaliser, de désinstitutionnaliser la personne. Ça sera avec qui? Dès lors que les réseaux de soins sont de plus en plus, j'allais dire, limités, entravés dans leur capacité d'action, il va bien qu'il va falloir qu'on s'en remette sur les proches, en tous les cas. Quand les personnes ont des proches, avec, et vous l'avez évoqué, la discrimination entre les personnes qui auront des proches et les personnes qui n'en auront pas. Et oui, d'un point de vue éthique, dans les décisions médicales aujourd'hui, on tient compte du fait que la personne a un environnement qui sera porteur, soutenant, ou ce qu'elle n'a pas. Et même on renonce à certaines options thérapeutiques du fait que la personne se trouve seule. Je pense par exemple à l'ECLA. Je pense que, on va en parler tout à l'heure, mais la pose d'une trachéotomie, une gastrostomie pour une personne qui est seule, c'est pas la même chose. Elle ne se pose pas dans les mêmes conditions que pour une personne qui a un environnement. Et maintenant, dans l'intégration de la réflexion, on dira, mais est-ce que l'environnement est susceptible d'accepter ce long cours extrêmement incertain? Vous voyez, tous ces éléments bout à bout, qui font vivre la question du proche comme une question qui n'est pas évidente, histoire d'idéaliser le proche. C'est pour ça que, je ne sais pas si je ferai mon petit texte, mais mon petit texte, j'ai bien cité une de nos vedettes à l'espace éthique, Catherine Olivet, qui est la présidente de France Alzheimer 93, et qui dit qu'il faut distinguer l'aidant de l'aimant. Et de plus en plus, d'ailleurs, on ne parle pas que du proche, il y a tout un ensemble de terminologies. Il y a par exemple l'aidant. Le proche est un aidant, par exemple, c'est pas uniquement un proche, c'est un aidant. Et certains discutent même du statut de l'aidant, c'est-à-dire un proche qui devient l'aidant, qui aurait bénéficié d'une formation, hein, de la façon qu'on parle d'éducation thérapeutique, hein, de la personne malade. Hein, il y a toute cette avancée, on peut dire, bon, on va former l'aidant. Et en plus, on va le valoriser puisque on pourra lui valoriser ses acquis, soit à la fin de la maladie, soit à la mort de son proche, d'une certaine façon, qui était malade. Vous voyez toute l'évolution qui se pose, savoir est-ce que le proche peut devenir à un moment donné un professionnel, selon quelles conditions, pour intervenir dans quel cadre, quelle est la compétence dont il va bénéficier. À la Pitié-Salpêtrière, prière. Je parle de la SLA parce que je préside l'association nationale de la SLA, donc je connais un peu ce sujet. On forme les proches, c'est-à-dire on les dote d'une certaine compétence, ce qui n'est pas paradoxal, ce qui peut aussi avoir un intérêt. Mais comme toutes les questions d'éthique, c'est des questions souvent de dilemme, des questions de limite, et c'est là où il faut être extrêmement vigilant. Et tout peut laisser entendre qu'avec la manière de gérer la santé aujourd'hui, demain, le déficit en capacité d'intervention des professionnels ou en capacité de financement fera peut-être qu'on dira, écoutez, débrouillez-vous avec votre malade, puis quand vous aurez la solution, viendrez nous voir. Voilà. J'ai terminé pour ma introduction, j'ai fait combien de minutes pour voir si mon score est bon ou pas. Ça va? Non, mais j'ai combien encore sur mon capital temps avant la discussion?